Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. S'il y a bien un thème où le « en même temps » prospère, c'est celui de l'écologie. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le premier parc éolien en mer de France. 80 moulins sur pilori visibles au large des côtes de Loire-Atlantique. Ou comment ne pas polluer sans trop enlaidir le paysage. Des parcs comme celui-ci, le président en veut 50 d'ici 30 ans, mais il veut aussi accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires à l'heure de la fin de l'abondance. Peut-on satisfaire tout le monde en matière d'énergie et d'écologie? Nous en parlons dans un quart d'heure avec Louis Osalter, journaliste à Marianne, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina et Émilie Zapalski, communicante politique. Nous y revenons aussi dans le journal d'Hélène Zelensky. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Zelensky. Raphaël, bonsoir à tous.
Zélanie.
Hélène Zelani, évidemment. Allez, plus vite sur les énergies renouvelables, mais aussi le nucléaire. Nous serons à Saint-Nazaire avec Emmanuel Macron qui dévoilait les détails du projet de loi qui sera présenté lundi en Conseil des ministres.
Nous verrons aussi si concrètement il est possible d'aller plus vite. Dans ce journal, les annonces de Vladimir Poutine se concrétisent, la mobilisation des réservistes a commencé et les intéressés ne sont pas forcément volontaires pour partir en Ukraine. Le procès de l'accident de Mias interrompu après le malaise de la conductrice du car qui témoignait à la barre. Et puis le football, France-Autriche, ce soir en Ligue des Nations, coup d'envoi à 20h45 au Stade de France et c'est bien sûr à suivre dans Europe 1 Sport.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Un premier jour d'automne sous les nuages demain, avec le retour de la pluie près de la Manche et puis surtout le début d'une dégradation orageuse en soirée par le sud-ouest. On fait un point complet à la fin du journal.
A tout à l'heure Marlène. Leur haute silhouette s'élève à perte de vue au large de Saint-Nazaire. Emmanuel Macron inaugurait le premier parc éolien en mer français aujourd'hui.
Oui, ce matin, le chef de l'État a donc pris un bateau pour assister à la mise en service de ce parc de 80 éoliennes, un site exploité par EDF, qui fonctionnera totalement d'ici la fin de l'année et pourra alors alimenter 700 000 personnes en électricité. Emmanuel Macron a ensuite dévoilé les grands axes du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Jacques Serret, vous êtes à Saint-Nazaire, bonsoir.
Bonsoir.
Au moment où nous affrontons de plein fouet une crise énergétique, l'idée c'est de lever les barrières qui ralentissent ce type de projet.
Oui, Emmanuel Macron veut simplifier les procédures, aller deux fois plus vite, dit-il, car le parc éolien de Saint-Nazaire a mis 10 ans pour sortir de mer et il ne souhaite pas que les autres projets à venir mettent autant de temps.
On va réduire les délais de contentieux, permettant de limiter à 3 fois 10 mois, soit 2 ans et demi, la durée totale des contentieux maximale. Certains peuvent dépasser 4 ans aujourd'hui. Et puis simplification des procédures pour aller plus vite, en gagnant 3 à 6 mois sur les délais d'enquête publique et autorisation environnementale.
Une ambition qui concerne également l'éolien terrestre.
On devra faire de l'éolien sur Terre. On a en fait concentré l'éolien terrestre sur très peu de territoires. Très peu. Donc il va falloir ouvrir le jeu.
Ces mesures feront partie du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres lundi sur l'accélération des énergies renouvelables. Une accélération qui doit aussi se concrétiser dans la filière nucléaire. C'est en tout cas ce qu'appelle de ses voeux le chef de l'État.
On sera dans la même logique sur le nucléaire avec un texte de loi qui nous permettra d'adapter les procédures existantes en matière d'urbanisme pour favoriser le développement des premiers sites identifié.
Emmanuel Macron qui tente d'apporter là une réponse à la crise énergétique, mais ces mesures sont loin d'être effectives, tant elles risquent de mettre en ébullition l'Assemblée nationale dans les semaines à venir.
Jacques serait à Saint-Nazaire. La France doit aller deux fois plus vite sur les énergies renouvelables, ça c'est ce que dit Emmanuel Macron, mais concrètement, Baptiste Morin, comment c'est possible?
Eh bien, il y a les recours en justice. C'est vrai qu'ils ralentissent la majorité des projets éoliens. Prenez le projet de parc en mer d'Oléron. Pas plus tard que lundi dernier, 8 associations ont déposé un recours gracieux pour demander à l'État de revoir l'emplacement du parc. Sinon, elles le disent, elles iront devant le tribunal administratif. Autre exemple, le projet au large des îles Dieu et de Noirmoutier. Un collectif a déjà déposé 2 recours devant le Conseil d'État. La loi limitera le temps de la justice à 10 mois par niveau de juridiction. Une décision sera donc rendue en 2 ans et demi maximum. Autre axe de travail, les procédures administratives. Elles peuvent prendre des années. Pour toute la phase d'examen, les délais ne sont pas encadrés. Ça pourrait changer. Et ces procédures ne peuvent pas se conduire de manière simultanée. Très concrètement, l'étude environnementale doit être réduite avant que l'enquête publique ne débute. L'idée pourrait être de les conduire en parallèle. Mais attention, les professionnels alertent sur le décalage entre l'intention politique et la réalisation pratique. Le gouvernement demande aux préfets d'accélérer le traitement des projets. Pour cela, il leur faudra des moyens humains.
Et précisons, Baptiste, que d'ici 2050, Emmanuel Macron veut une cinquantaine de parcs éoliens en mer.
Venons-en à la situation en Russie. Vous le savez, hier matin, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle pour faire face à la guerre en Ukraine.
Oui, il a parlé de 300 000 réservistes et même si cela peut paraître surprenant, Guillaume Dominguez, dans les faits, cette mobilisation a déjà commencé.
Oui, selon plusieurs médias russes d'opposition, les recrutements ont commencé dès hier soir. Dans la région de Buryati, par exemple, dans le sud de la Russie, le site Medusa raconte que 7000 réservistes inscrits au registre ont reçu la visite dans la nuit de membres de l'administration russe, leur demandant de se présenter immédiatement au bureau d'enregistrement militaire dans la région. Plus à l'est, dans la ville de Neryongri, le média local Taiga Info diffuse sur son compte Twitter une vidéo où l'on voit des réservistes volontaires dire adieu à leur famille dès la sortie d'un bureau de recrutement improvisé, avant de monter à bord de bus en direction des camps d'entraînement. Des vidéos similaires prises dans plusieurs grandes villes du pays sont relayées sur les réseaux sociaux depuis ce matin.
Et toujours selon les médias d'opposition, le nombre de réservistes mobilisés pourrait en réalité atteindre le million, Guillaume.
Oui, c'est une information révélée par Novaya Gazeta. Selon l'une de ses sources proches de l'administration de Vladimir Poutine, le septième paragraphe du décret de mobilisation paru hier permet de mobiliser non pas 300 000, mais jusqu'à 1 million d'hommes dans l'armée russe. Une information immédiatement démentie par les autorités du pays, qui de leur côté refusent de rendre public le contenu de ce décret.
Et on sait que de nombreux Russes tentent de fuir le pays pour échapper à la mobilisation. L'Allemagne se dit ce soir prête à les accueillir, mais pas la République tchèque. D'ailleurs, un coup de fil est devenu viral sur Internet. Un animateur appelle le fils du porte-parole du Kremlin en se faisant passer pour un recruteur de l'armée. Il lui fait croire qu'il est convoqué dès le lendemain. L'homme de 32 ans laisse alors entendre qu'il ne se laissera pas enrôler. « Je réglerai ça à un autre niveau », dit-il. Et puis aujourd'hui, 55 militaires russes ont été libérés en échange de 215 prisonniers ukrainiens. Un proche de Poutine a retrouvé la liberté dans cet échange, Viktor Medvedchuk, ukrainien considéré comme un traître dans son pays.
En France, la question explosive des retraites fait toujours débat.
Oui, les différentes oppositions à l'Assemblée et une partie de la majorité refusent que la réforme se fasse par le biais d'un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Emmanuel Macron appelle à trouver la bonne méthode pour arriver à un consensus.
Le gouvernement doit lancer une discussion avec les forces sociales, c'est-à-dire syndicales et patronales, avec les forces politiques, et trouver, c'est son travail avec le Parlement, la bonne manœuvre. Et donc ils verront comment cela doit cheminer. Ce qui est sûr, de là où je suis, je vous le dis avec clarté, nous ne pouvons pas ne pas là-dessus collectivement changer. Nous sommes l'un des pays d'Europe dont les âges sont les plus précoces. Et donc si on veut faire cela, on doit le faire de manière transparente, de manière claire, de la manière la plus apaisée possible. Et la vérité, c'est qu'il nous faut travailler plus et produire plus de richesses dans notre pays. Si nous voulons protéger, avoir une politique de justice sociale et défendre le modèle social français, sa force et son avenir.
Le chef de l'État sur BFM TV, au RN, Marine Le Pen, était reçue aujourd'hui par Elisabeth Borne pour parler de cette réforme des retraites. Elle avertit que son groupe s'opposera à un passage en force.
Nous sommes tombés d'accord pour constater que nous étions totalement en désaccord sur l'intégralité des textes qui vont arriver devant l'Assemblée nationale. Voilà. Sur la réforme de l'assurance chômage, le projet de loi de finances, la volonté du président suggérer de faire passer la réforme des retraites dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, je lui ai clairement dit que s'ils entendaient faire passer la réforme des retraites par l'intermédiaire d'un amendement en utilisant le 49.3, alors nous déposerions une motion de censure et nous voterions les motions de censure qui seraient déposées, quelle que soit leur origine.
Marine Le Pen avec Victor Chabert.
La majorité présidentielle à l'épreuve d'une énième et toujours périlleuse réforme des retraites. Nous en parlerons tout à l'heure dans le débat d'Europe Soir. Dans quelques instants, la suite du journal, nous irons au procès de l'accident de car de Mias. Audience interrompue jusqu'à lundi après le malaise de la seule prévenue, la conductrice du car scolaire. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, 19h-20h, Raphaël Delvolvé.
La suite du journal d'Hélène Zellani, audience mouvementée au procès de l'accident du car scolaire de Millas aujourd'hui.
6 adolescents morts, 17 autres blessés lors de la collision avec un train à un passage à niveau. La conductrice, seule prévenue, était interrogée tout à l'heure sur les secondes juste avant le drame. Les barrières étaient-elles ouvertes ou fermées ? Elle s'est effondrée en sanglots sans réussir à se reprendre. au point qu'il a fallu interrompre les débats, Stéphane Burgat.
Oui, Nadine Oliveira est partie à bord d'une ambulance des marins-pompiers. Quelques instants auparavant, les avocats des parties civiles tentent de la bousculer à la barre. Mais une fois encore, la conductrice craque, secouée cette fois-ci par de violents sanglots et une détresse évidente qui ne lui permettent pas de regagner la salle. Maître Jean Codognès dénonce une torture de sa cliente.
C'est quand même une souffrance incroyable qui est infligée à cette femme. Moi, je comprends les parents qui veulent avoir toute la vérité sur le dossier, mais lui poser toujours les mêmes questions qui lui font revivre un instant traumatique majeur. Je trouve que c'est aussi une violence. Voilà.
Mais sur les bancs, les collégiens blessés dans la collision ainsi que les parents des victimes, à l'image de Fabien Bourgeonnier, déplorent une victimisation insupportable.
Elle se met à pleurer toutes les 5 secondes dès qu'elle est au pied du mur. C'est pas un pleur parce qu'elle est triste, c'est un pleur parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait et le drame qu'elle nous a fait vivre. Les vraies victimes, c'est pas cette femme. La vraie victime, c'est nos enfants. Là, aujourd'hui, on y envoie les pompiers. Non, mais c'est dramatique, quand même. Mais l'irrespect, il est total.
Voilà, et les débats doivent normalement reprendre lundi prochain, avec ou sans Nadine Oliveira. Rien n'est certain pour l'heure.
Stéphane Burgat à Marseille, où se tient ce procès. Le seuil du million de tests anti-Covid en une semaine a de nouveau été franchi la semaine dernière, plus 33% par rapport à la semaine précédente. Un rebond qui touche particulièrement les moins de 16 ans.
Le bac nouvelle mouture, on connaît désormais le programme des épreuves de spécialité.
Oui, elles se tiendront en mars pour les élèves de terminale, précisément du 20 au 22. Ça concerne l'histoire-géo, les maths ou encore l'économie. Elles arriveront donc tôt dans l'année, Louise Salé, afin que les notes soient prises en compte dans Parcoursup.
Oui, et c'est ce qu'avait instauré la réforme Blanquer, et ce sera la première fois qu'elle sera pleinement appliquée. En 2020 et 2021, le contrôle continu avait primé, et en 2022, ces épreuves de spécialité s'étaient tenues en mai à cause de la vague Omicron. Les syndicats d'enseignants sont plutôt mécontents. Ils souhaitaient des épreuves en juin pour finir le programme, mais le ministre Pap Ndiaye a précisé que ces évaluations de mars porteront sur un programme resserré, autrement dit alléger un contenu qui sera révélé la semaine prochaine. Sophie Venetita est secrétaire générale du syndicat SNES-FSU.
C'est encore une semaine d'attente. Peut-être que la semaine prochaine, on va nous annoncer que des chapitres qu'on a déjà traités sont finalement retirés du programme. Quasiment toutes les organisations syndicales demandaient le report au mois de juin. De très nombreux témoignages nous signalaient que les classes étaient quand même vidées après les épreuves de spécialité. Les élèves leur disaient « j'ai le contrôle continu, j'ai les épreuves de spécialité, j'ai l'essentiel de ma note au bac ».
D'après les syndicats aussi des chefs d'établissement, le SNPDEN en particulier, 67% des lycées avaient été concernés par des problèmes d'absentéisme des terminales en 2022. C'était après les épreuves de spécialité en mai dernier.
Louise Salé, spécialiste éducation d'Europe 1.
Du football à suivre ce soir et à vivre en direct dans Europe 1 Sport.
Oui, France-Autriche, match de Ligue des Nations à 2 mois du Mondial. L'équipe de France est dernière de son groupe. Cédric Chasseur, vous êtes devant le Stade de France. Donc un match aux multiples enjeux pour Didier Deschamps.
Oui, et il y a une première urgence déjà pour le sélectionneur des Bleus, c'est de maintenir cette équipe de France dans cette Ligue des Nations. Vous l'avez dit, ils sont derniers, ces Bleus. Aucune victoire au compteur, seulement 2 petits points en 4 matchs. La France est en grand danger de relégation, ce qui serait une catastrophe évidemment pour le classement FIFA. Deuxième urgence, créer une osmose, débuter un semblant de préparation pour le Mondial. C'est déjà dans 2 mois, sauf que Didier Deschamps est privé de nombreux joueurs. Cela fait au moins 2 heureux puisque Benoît Badiachil et Youssouf Fofana de Monégasque devraient connaître leur première sélection ce soir avec les Bleus. Puis dernière urgence, c'est tenter de changer l'atmosphère autour de cette équipe de France, minée par les affaires qui touchent la fédération, touchée aussi par les tensions sur les primes de droit à l'image cette semaine. Alors c'est peut-être l'occasion de l'emporter, même si ce sera très difficile. Les Bleus n'ont plus gagné depuis le mois de mars et un succès 5-0 en amical contre l'Afrique du Sud.
Cédric Chasseur au Stade de France, où le coup d'envoi de France-Autriche sera donné à 20h45, à suivre bien sûr en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. À noter aussi la belle performance de l'équipe de France féminine de basket pour son entrée dans le Mondial. Elle a battu l'Australie chez elle, 70 à 57. Les marchés financiers avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Nette baisse à Paris où on retombe au plus bas depuis 3 mois.
Oui, une forte baisse, moins 1,9% pour le CAC 40, 5 918 points à la clôture. C'est la réserve fédérale américaine qui a jeté un froid. Elle a encore relevé ses taux de 3/4 de point hier soir et elle ne compte pas s'arrêter là, avec sans doute une 4e deuxième hausse d'ici la fin de l'année. Discours agressif pour combattre l'inflation qui inquiète les marchés. Et puis en Europe, la Banque d'Angleterre aussi a relevé ses taux cet après-midi. À Londres, l'indice FTSE cède plus de 1% ce soir, moins 1,8% pour Francfort et pour Amsterdam. Et donc moins 1,9% à Paris. Le CAC 40 est à 5 918 points.
Merci Claire Lemaître.
Et merci Hélène Zélani. J'insiste bien sur son nom que j'ai lamentablement écorché tout à l'heure. Excusez-moi encore.
Je ne suis pas de la famille du président ukrainien.
Chère Hélène, il faut que j'arrête de lire les journaux. Hein, voilà. Et Hélène Zélani, vous retrouvez évidemment demain dans Europe Soir. Ça sera en compagnie de Pierre de Villeneuve. À demain, chère Hélène, la météo.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Et nous retrouvons Marlène Duret. Marlène, ça se dégrade demain.
Et oui, par le nord-ouest et par le sud. Raphaël, on va commencer peut-être par le nord-ouest. On a une perturbation pluvieuse qui se rapproche. Elle va arriver cette nuit et on la retrouvera en matinée de la Bretagne à la Normandie et à une partie des Hauts-de-France. Donc dans toutes ces régions, le temps sera assez gris et passagèrement pluvieux. L'autre dégradation, on l'attend surtout en fin de journée ou en soirée. D'abord en Aquitaine avec des averses qui peuvent tourner à l'orage. Et puis ces averses orageuses vont se diriger progressivement vers l'Occident. Occitanie, le sud du Massif central et l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, sinon, hormis dans le Languedoc-Roussillon, il faut savoir que la journée débutera sous un ciel assez bien dégagé du Midi-Pyrénées à l'Auvergne sur tout le flanc est. Mais le voile nuageux à l'ouest va gagner du terrain au fil des heures. Évidemment, il va s'intensifier, se généraliser à l'ensemble du pays et seule la Corse conservera du beau temps.
Et la fourchette des températures en journée, c'est de 17 à 27 ?
Exactement, 17 degrés attendus à Rouen, 18 à Amiens, à Saint-Étienne, il fera 20 à Paris, Nancy, Rennes, 21 degrés à Thonon-les-Bains, à Biarritz, 22 à Besançon et Tours, 23 degrés attendus à Valence, Angoulême, Bordeaux, 25 à Marseille et à Tarbes, et enfin 27 degrés pour Perpignan et Toulouse.
C'est bien noté, merci Marlène Duret. Prochain point météo à 23h tout à l'heure sur Europe 1. Restez avec nous. C'est à suivre dans Europe Soir, le débat avec ce soir, lui aux haltères, journaliste à Marianne, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina, Émilie Zapalski, communicante politique. Nous nous poserons cette question. Emmanuel Macron a-t-il les moyens de ses ambitions en matière de développement des énergies renouvelables ? A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.